Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Arrêt sur Image. L'affaire politico-financière vient de muter en scandale politico-médiatique et un scandale de taille. Il concerne l'un des nombreux épisodes de l'affaire du financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy, celui de la vraie fausse rétractation de Ziad Takieddine. On y reviendra tout à l'heure. L'homme d'affaires l'affirme devant les caméras de BFM TV après avoir clamé le contraire. Aucun argent n'a transité entre Tripoli et Paris. Et qui en profite pour accorder une interview vérité à la chaîne d'info? Nicolas Sarkozy lui-même, évidemment. Ce sont les coulisses de cette interview qui viennent d'être révélées par Mediapart et ils sont inouïs. Petits arrangements, collusions, amitiés. C'est peu dire que l'envers du décor est pas très reluisant et c'est vous qui l'avez révélé, Fabrice Arfi.
Entre autres, plusieurs.
J'allais y venir. J'ai dit vous, mais vous co-signez cette enquête avec Antoine Rouget et Karl Lasquet chez Mediapart. Vous êtes co-responsable du pôle enquête de Mediapart et vous êtes l'auteur pour l'affaire qui nous intéresse aujourd'hui d'un livre avec Karl Lasquet, justement avec les compliments du guide paru chez Fayard en 2017. Et alors, pour se replonger dans cette affaire qui a des tiroirs dans tous les sens, on va regarder à l'époque les images de Ziad Takieddine diffusées sur BFM TV.
Monsieur Sarkozy n'a pas eu un financement libyen pour la campagne présidentielle, ni M. Kadhafi ne pouvait le faire parce qu'il ne le faisait jamais. Et je l'ai dit haut et fort. Or, ce juge Turner a bien voulu tourner ça à sa manière et me faire dire des propos qui sont totalement contraires aux propos que je dis, ou j'ai toujours dit, il n'y a pas eu de financement de campagne présidentielle de M. Sarkozy. Jamais.
Alors, on va resituer un peu. Ziad Takieddine, qui est un homme d'affaires libanais, intermédiaire entre Tripoli et Paris, entre le clan Sarkozy et le clan Kadhafi, qui avait affirmé à plusieurs reprises que de l'argent avait bien circulé en cash et par virement bancaire entre les deux hommes, enfin, en tout cas, entre les deux clans. Cette fois-ci, il dit tout l'inverse. Il dit « on m'a fait dire ce que je n'ai pas dit ». C'est le juge Turner qui est en charge du dossier, qui a mis des mots dans ma bouche. Et interview très étrange. De par son cadre, d'abord, il est assis sur un banc à Beyrouth. Il est équipé avec un micro qui pendouille un peu. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là derrière cette interview?
Alors, quand vous dites homme d'affaires et intermédiaire, c'est la façon pudique de le présenter. Pour la justice, c'est un agent de corruption, puisqu'il a déjà été condamné dans une affaire déjà politico-financière qui concernait la droite française, qui est l'affaire Karachi. Et il est multimis en examen, comme Nicolas Sarkozy d'ailleurs, dans l'affaire des financements libyens. Et donc c'est un agent de corruption présumé, c'est-à-dire une sorte d'envoyé spécial de l'équipe Sarkozy, envoyé spécial secret, puisqu'il n'apparaît dans aucun organigramme, pour faire tout ce que la République n'assume pas publiquement avec une dictature étrangère et non des moindres, celle de Muammar Kadhafi. Et c'est vrai que ça a été l'un des accusateurs de Nicolas Sarkozy dans le dossier, dont je dis tout de suite qu'évidemment que le dossier ne repose pas sur la seule parole d'un Ziad Takieddine. Des juges d'instruction nombreux qui ont fait 10 ans d'informations judiciaires et d'enquêtes avec des services spécialisés de la police comme du parquet national financier n'ont pas décidé de renvoyer devant le tribunal un ancien président et 3 anciens ministres, dont 2 de l'intérieur. Je veux parler de messieurs Sarkozy, Hortefeux, Guéant et Woerth, puisqu'il y aura le procès de l'affaire libyenne à partir de janvier prochain pendant 4 mois à Paris, sur les seules déclarations d'un Ziad Takieddine. Il y a évidemment énormément de documents et d'éléments corroborant un certain nombre de faits qui ont été mis au jour par l'enquête. Et voilà, soudainement, qu'à l'automne 2020, celui qui n'a cessé d'accuser Nicolas Sarkozy en s'auto-incriminant, d'ailleurs, pour des raisons psychologiques, on peut peut-être expliquer très rapidement, parce qu'il a été lâché par la Sarkozy, qui lui a préféré son principal concurrent dans ce monde bizarre des intermédiaires, qui est Alexandre Joury, et qui passe en partie à confesse sur procès-verbaux à de très nombreuses reprises, que ce soit devant les enquêteurs de la police ou devant les juges d'instruction. Et là, surgissement de 32 minuscules secondes à l'antenne de BFM, corollé à un reportage de Paris Match, Paris Match qui, on a arrêté sur image, appartient au groupe Lagardère, dont à l'époque, un membre du conseil de surveillance est Nicolas Sarkozy, ce qui n'est pas rappelé d'ailleurs dans les colonnes de Paris Match, et c'est ce qu'on appelle une rétractation. C'est-à-dire qu'il dit non seulement j'ai menti, mais j'ai menti à la demande des juges, et notamment d'un juge qui est la cible principale de toute cette opération avec Mediapart. il m'a proposé un marché. Si j'accuse Sarkozy, même à tort, il me permettra que ma situation judiciaire dans un autre dossier, le dossier Karachi, celui dont j'ai parlé au début, ira mieux. Bon. C'est ce qu'il dit en 32 secondes, comme vous l'avez très bien raconté, assis, avec le micro mis n'importe comment, sur la marina du port de Beyrouth. Et BFM décide de faire un immense événement, comme ils n'en ont jamais fait autour de l'affaire libyenne, sur « l'affaire s'écroule ». Voici la preuve que l'affaire s'écroule, c'est cette déclaration. Nous, on est très surpris quand on voit ça, parce que ce qu'il dit, ne serait-ce que les 32 secondes qu'il dit, avec trois coups de fil, ne serait-ce qu'à son avocate, de Ziatek Yedine, à des magistrats qui sont autorisés à parler, par exemple du parquet national financier, ou en plongeant dans le dossier judiciaire, ça ne tient pas la route. Journalistiquement, ça ne tient pas la route. Nous, on est quand même très surpris, et trois mois plus tard, nous faisons des révélations dans Mediapart, où en fait, nous racontons que derrière cette rétractation étrange, en fait, il y avait des négociations financières, il y avait des promesses, il y avait une sorte de corruption pour le convaincre de se dédire, et on lui a promis 4 millions d'euros.
C'était la fameuse opération Sauver Sarko.
Ça, d'ailleurs, tous ceux qui ont organisé cette fausse rétractation pour le compte et au bénéfice de Nicolas Sarkozy avaient eux-mêmes, entre eux, appelé l'opération, comme vous le dites, l'opération Sauver Sarko. Et on retrouve tout un aéropage de personnages plus haut en couleur les uns que les autres qui sont derrière cette opération, notamment personnage central et très intéressant vis-à-vis de la question de BFM TV et de son directeur général Marc-Olivier Fogiel, qui une femme qui s'appelle Michèle Marchand, qui sont nommées Mimi Marchand, qu'on présente comme la papesse de la presse. La papesse de la presse People. C'était un raccourci journalistique que nous utilisons nous-mêmes dans le journal, qui est à la tête d'une agence de paparazzi, mais dont on va découvrir en tirant le fil de cette histoire qu'une partie de son boulot relève aussi un peu de la barbouzerie au profit du monde politique, de certains anciens présidents, membres de gouvernement et de stars du showbiz. Assez éloignés, il faut dire, de la presse people, dont il ne s'agit pas de juger si c'est bien ou pas bien. Chacun fait son boulot. Bon, voilà. Là, on parle d'autre chose, de manipulation. Et en fait, l'enquête judiciaire avançant sur cette fausse rétractation, puisque ça devient une enquête judiciaire parallèle à l'affaire de fond de la corruption franco-libyenne, bien les enquêteurs, policiers, les procureurs, les juges tirent le fil de cette fausse rétractation. Ça va aboutir à des choses assez spectaculaires, puisqu'il y a une douzaine de personnes mises en examen, dont Nicolas Sarkozy. En droit, on appelle ça une subornation de témoins. C'est-à-dire qu'on a forcé un témoin en le promettant, monts et merveilles, de l'argent ou d'autres choses, de changer son témoignage pour tromper la justice. Et il y a un deuxième délit qui est justement une association de malfaiteurs en vue de commettre une escroquerie au jugement. Une escroquerie au jugement, c'est tromper la justice en connaissance de cause. Nicolas Sarkozy est mis en examen. Sa femme, Carla Bruni, vient d'être mise en examen. Mimi Marchand est mise en examen. Et d'autres opérateurs de tout cela sont mis en examen. Et en tirant le fil, justement, la police découvre, au-delà de la machination judiciaire qui, heureusement, n'a pas fonctionné, puisque ça a pu être démonté d'abord par la presse, Mediapart, Libération aussi, qui a joué un rôle important, puis aujourd'hui la justice qui met au clair tout ça, bah, derrière la machination judiciaire, il y a eu une manipulation médiatique proprement sidérante. Et cette manipulation médiatique, c'est celle à laquelle s'est prêté l'état-major de BFM TV.
Alors j'allais y venir, parce que cette fausse rétractation, finalement, c'est peut-être le premier tiroir de ce que vous révélez cette semaine dans Mediapart. Et je voudrais qu'on voit un extrait d'un complément d'enquête de l'époque où un ancien journaliste de BFM TV raconte le jour où, justement, il a obtenu ces images de Ziatek Yedine, qu'on lui a montrées et qu'il a commencé à émettre des doutes.
Ce jour de novembre 2020, une certaine fébrilité s'empare de la rédaction de BFM TV.
À l'époque, moi je suis rédacteur en chef à BFM TV. Je m'occupe de la tranche du soir. Et vers 15-16 heures, je suis convoqué par la direction de l'information. Et là, je sens que c'est important. La porte est fermée. Et on me fait rentrer, on dit « Écoute Romain, ce soir on est sur un gros coup. On a une déclaration de Ziatek Yedine sur le financement présumé de la campagne de Sarkozy. »
C'est un scoop. Mais le journaliste, qui a quitté la chaîne depuis, n'est pas très à l'aise.
Moi, je reçois de sonore qui est déjà pré-mâché. qui n'a pas été tourné par un reporter de BFM TV. Et donc le sonore fait 29 secondes. Donc déjà, c'est très étonnant. Et là, j'écoute, là, au casque, devant mon poste. Et là, j'entends Ziad Takieddine mal fagoté, le micro qui pendouille, assis sur un banc, je ne sais pas trop d'où il parle. Et on a l'impression que Ziad Takieddine récite Hanon un texte. Limite, il y a un prompteur, il y a des pancartes derrière lui. Direct, je trouve que le truc est foireux. Après, c'est une décision de la rédaction chef de BFM TV, de la direction de l'info, de mettre ça à l'antenne. C'est présenté comme une exclusivité BFM TV / Paris Match. Donc, on le met à l'antenne.
Première précision importante, en effet, ce ne sont pas des journalistes de BFM TV qui ont filmé Ziad Takieddine.
Il n'y a rien qui va.
À Beyrouth.
C'est-à-dire que depuis qu'on a publié notre enquête et que ça tangue à BFM, Marc-Olivier Fogiel a fait une déclaration hier à l'AFP en disant « Nous avons été journalistiquement irréprochables dans cette histoire ». Ce que raconte Romain Verlet, quand même le rédacteur en chef de la chaîne, au moment de la diffusion, c'est qu'il n'y a rien qui va du début à la fin. C'est-à-dire que non seulement ce n'est pas BFM qui produit le sujet, mais la rédaction de BFM n'est même pas au courant de ce qui se passe et n'a même pas la main pour essayer de vérifier 30 secondes qu'on leur envoie par l'intermédiaire du patron Marc-Olivier Fogiel. Donc, c'est-à-dire c'est une boîte aux lettres et une opération qui se fait dans le dos de la propre rédaction de BFM, qui est rempli de journalistes extrêmement compétents, et notamment sur la question judiciaire, qui savent comment ça se passe. Et donc là, il y a une manipulation dans la manipulation, c'est que l'état-major de BFM se prête à une opération. Alors, je ne dis pas que Marc-Olivier Fogiel savait qu'il y avait des tractations financières derrière la rétractation de Ziad Takieddine, mais il est certain qu'il s'est mis au service aveuglément dans une forme de soumission à Nicolas Sarkozy et dans une forme de dépendance à Mimi Marchand, qui est la chef d'orchestre de cette fausse rétractation, et de privatiser en quelque sorte l'antenne de BFM contre sa rédaction pour participer à ce qui est l'un des plus grands fiascos médiatiques de ces dernières années.
Soumission ou course au scoop ? Parce qu'on pourrait se dire aussi, ça peut être bêtement, ce qui n'est pas une meilleure excuse, hein, mais ça peut être bêtement le frisson de l'exclu. On a Ziad Takieddine qui fait une déclaration fracassante, à l'époque on peut le penser, on le diffuse.
Mais quand on se goberge de bien faire son travail, bien sûr, course au scoop, les gens aient envie d'avoir des révélations et de capter l'attention du public avec des informations exclusives, c'est pas quelqu'un de Mediapart qui va dire le contraire. En fait, on vérifie. En fait, la base, c'est quand même, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Est-ce que les faits sont vérifiables ? Est-ce qu'ils sont d'intérêt public ? Est-ce qu'ils sont diffusables, puisqu'on parle d'une chaîne ? Deuxième élément de réponse, précisément, les textos qu'on révèle et qui ont été saisis par la justice montrent que ce n'est pas ça, que c'est des figures et des responsables de la chaîne qui se mettent au service total de la défense pénale de Nicolas Sarkozy. Et ça vient en écho à la façon dont BFM ne traite pas cette affaire depuis des années. C'est ça qui est intéressant. C'est que le plus gros événement que BFM ait fait autour de l'affaire libyenne, c'est une fausse information. C'est une manipulation médiatique. Et la coulisse des textos nous montre, que, quand on rentre dans le ventre de ce qui est pour moi au-delà de la connivence, raconte une histoire qui est éloignée de ce que vous appelez la chasse au scoop et qui peut être évidemment un argument et même, allez, un argument entendable, même si ça n'autorise pas à faire n'importe quoi à l'antenne de la principale chaîne d'information française.
Alors justement, on va rentrer dans le détail de ces textos parce que ce qui est pratique dans cette enquête, j'allais dire, c'est que tout est chronologique.
Voilà.
Puisque on a tout.
Depuis la Grèce antique, on sait que la chronologie, c'est le meilleur.
C'est ça, c'est très pratique. En fait, ça commence par Hôtel Krief. Qui prévient donc, alors il y a un deuxième personnage qui va être très important dans cette affaire, c'est Véronique Ouachet, que les gens connaissent peut-être moins parce que c'est pas une personne très publique, qui est la communicante de Nicolas Sarkozy, très proche de lui depuis des années, qui gère à la fois ses relations presse, à la fois ses affaires courantes, son agenda, voilà, c'est vraiment, on va dire, son bras droit pour tout ce qui est relations publiques. Et donc Ruth Elkrief, le jour de la diffusion de cette interview de Ziad Takieddine, envoie un premier texto à Véronique Ouachet en lui disant, c'est à 18h10, premier plateau. Et Véronique Wachet en profite pour faire sa com' auprès d'autres médias en disant « Attention, BFM va sortir du lourd sur l'affaire libyenne. Taqiédine, dédouane Sarkozy », ce sont ses termes, hein, je la cite évidemment. Et donc elle demande aux autres médias de mettre quelqu'un sur le sujet. Et elle dit ensuite à Ruth Akrieff « Coucou Ruth, peux-tu appeler NS, Nicolas Sarkozy, je t'embrasse ». S'ensuit une discussion où Marc-Olivier Fogel négocie finalement la réaction de Nicolas Sarkozy, qui va, on va la voir tout à l'heure, qui va intervenir deux jours plus tard sur l'antenne de BFM. Et alors, on le voit négocier les conditions, et notamment lui dire, finalement, choisissez le cadre, on s'arrange. Et alors, c'est vrai que nous, quand on a lu ça, on s'est dit, bon, ben finalement... Est-ce que c'est si grave, par exemple, de lui laisser choisir le cadre ?
Non, mais c'est pas... bien sûr.
Parce que c'est, comme c'est l'ouverture de votre enquête...
Oui, mais c'est... Ouais.
Je cite le texto.
Allez-y, bien sûr.
« Je suis là, je pense à vous. » Donc ça, c'est Ruth Akrieff qui parle. « Cher Véronique, je suis là, je pense à vous. Et si vous avez envie de vous exprimer, je suis à votre disposition. On peut monter ce que vous voulez. Je t'embrasse fort et transmets mes amitiés à NS. » On va d'abord s'arrêter sur la première partie, puis on s'arrêtera sur la deuxième partie du texto ensuite.
Mais en fait, vous l'avez dit, là, ce qui est très important, c'est la chronologie. Et reprenons-la telle qu'elle est. En fait, ça ne commence pas au moment de la préparation de cette interview qui date du 11 et 12 novembre. En réalité, l'affaire de la manipulation médiatique de BFM au service de Nicolas Sarkozy commence le 16 octobre, quand Mediapart, il se trouve que c'est comme ça, révèle que Nicolas Sarkozy a de nouveau été mis en examen dans l'affaire des financements libyens. Et il vient de subir 4 jours d'interrogatoire très serrés par la juge d'instruction Aude Burisi, qui a pris la suite de Serge Tourner, dont on a parlé tout à l'heure. Et il en sort avec une quatrième mise en examen. Il était déjà mis en examen 3 fois, avec un chef d'inculpation qui est très infamant pour un ancien président de la République, puisqu'il est mis en examen pour association de malfaiteurs, Nicolas Sarkozy. Et quand nous révélons cette nouvelle mise en examen, à ce moment-là, Ruth Akrieff envoie ce texto dans lequel elle dit à Nicolas Sarkozy, par l'entremise de Véronique Wachet, sa communicante, « Je suis là. On peut faire ce que vous voulez et transmettez mes amitiés à Nicolas Sarkozy. » C'est-à-dire que, déjà là, c'est une proposition de mise en service. Alors, bien sûr, on peut monter ce que vous voulez. Il ne s'agit pas de débattre de est-ce que Sarkozy préfère être interviewé dans ses bureaux à Miromesnil, dans la rue ou sur le plateau de BFM. Ça, bien sûr, c'est la vie d'une chaîne télé. Mais là, en fait, on a l'une des principales journalistes de la première chaîne d'info en France qui, quand un ancien chef de l'État déjà poursuivi et de nouveau mis en examen dans une énorme affaire d'État, sa première réaction, c'est de dire « Je suis là comme on le dirait à un ami. » Comme on le dirait à un ami. Et d'ailleurs, c'est conclusif avec « Transmettez mes amitiés. » Et la chronologie, c'est qu'après l'interview que Ruth Akrieff fera avec Nicolas Sarkozy au terme de cette opération, Véronique Wachet va dire à Ruth Akrieff « Ce que vous avez fait, c'est très important pour notre défense pénale dans la justice. » Et Ruth Akrieff lui répond « Je le pense sincèrement du fond... Je l'espère sincèrement du fond du cœur. Je l'espère sincèrement du fond du cœur. » Donc, en fait... Cet article et ces révélations ne peuvent être lus que dans leur totalité et l'effet de masse que ça produit. Parce que bien sûr, on peut prendre chaque texto d'un point de vue isolé et avoir des explications. Mais quand on met et on enchasse les textos et de Marc-Olivier Fogiel, et de Ruth Akrieff, et de Véronique Wachet, et de Bruno Jeudy, éditorialiste qui va jouer un rôle dans tout ça, alors là, on a un puzzle complet de ce que nous pouvons appeler une manipulation médiatique.
Et donc, ça aboutit à une interview de Nicolas Sarkozy, évidemment très en colère.
Comment réagissez-vous ?
Je suis partagé. Entre une colère froide dont vous n'imaginez pas la profondeur et la force. Et je demande à chacun de ceux qui nous regardent qu'ils aient voté pour moi ou pas. Qu'il m'aime ou pas. Est-ce que c'est normal qu'un ancien président de la République soit traîné dans la boue, comme je le suis depuis 8 ans, sur les seules déclarations d'un individu qui a menti et qui vient aujourd'hui dire « j'ai menti ». Pour quelle raison avez-vous menti ? Lui dit « j'ai menti parce que le juge m'a demandé de le faire pour arranger mes propres affaires.
Cette interview de Nicolas Sarkozy, elle a un effet fort à l'époque, puisque par ailleurs, il y a cet extrait, on va en diffuser un autre, qui fait partie de la défense de Rotaïkriev, donc on le regardera juste après. Il reprend à son compte tous les... Finalement, pour une fois, il accorde beaucoup de crédit à Ziad Takedine, c'est-à-dire que cette fois-ci, Ziad Takedine dit la vérité, là où il l'avait toujours accusé de mentir, et d'ailleurs, Rotaïkriev lui fera remarquer en lui disant « mais vous pouvez pas dire un jour il ment, et le lendemain il dit la vérité ». Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est ce qu'a promis Marc-Olivier Fogiel à Véronique Ouaché, je répète, l'attaché de presse de Nicolas Sarkozy, il lui dit « on bastonne dès vendredi après-midi, et diff samedi, diff diffusion samedi et tout le week-end », sous-entendu « on va en faire des caisses » pour le dire autrement.
– Mais oui, mais en fait, ce qui est fondamental, c'est que les textos de Véronique Ouaché montrent qu'elle, qui est quasiment dans son rôle, en fait, d'une certaine manière, d'attaché de presse, d'un ancien chef de l'État mis en examen, elle le défend, elle dit hein, « Sarkozy, c'est la famille ». Quand elle est entendue par les policiers, elle dit que Nicolas Sarkozy, c'est comme la famille. Donc bon, là, il y a un mouvement comme ça. Bon. Mais que certains médias, dont BFM, soient les otages consentants de ça, c'est plus problématique de mon point de vue. Et elle dit aux autres journalistes qui l'écrivent, c'est toute l'affaire qui s'écroule. Mais l'extrait que vous venez de diffuser de Nicolas Sarkozy, il est fondamental, parce qu'il montre quel est le mobile du crime. Le mobile du crime, c'est attaquer la justice. C'est pas Ziad Takedine. C'est pas Ziad Takedine qui a déjà eu des déclarations évolutives dans un dossier. C'est pas ça l'objectif de l'opération Sauver Sarko. C'est de dénigrer l'un des meilleurs juges d'instruction français, qui est d'ailleurs aujourd'hui le patron du pôle financier du tribunal de Paris, qui pendant longtemps a été le premier juge de l'affaire libyenne, qui est le juge Serge Tourner. C'est ce que fait Nicolas Sarkozy. Et c'est là-dessus qu'ils vont jouer. C'est purement berlusconien. C'est purement trumpien qu'ils ont fabriqué un faux scoop pour que ce soit le véhicule d'une attaque inédite dans sa puissance médiatique contre un juge d'instruction qui n'a fait que son boulot, si tant est qu'on tente de vérifier ce que dit Ziad Takedine. Et c'est de cela dont participe le mouvement mis en branle par Marc-Olivier Fogiel qui promet à Véronique Ouaché de bastonner, c'est son expression, pour diffuser et rediffuser tout cela, et effacer tout ce qui contredit cette version qui est fausse. Et je suis désolé, parce que je vais devoir parler de moi-même là-dedans, et donc ça peut paraître un peu déplacé, égotique, mais bon, on est le spécimen de soi-même, donc on fait avec ce que j'ai, et moi ce que j'ai, bah, c'est moi. Il se trouve que quand Nicolas Sarkozy est mis en examen le 16 octobre, je parle à l'antenne de BFM TV pour expliquer, faire la pédagogie de ce qui s'est passé. Et Véronique Ouaché écrit à Fogiel pour lui dire « Il y a Fabrice Arfi qui déroule tranquillement à l'antenne, en mode « il faut que ça change ». Fogiel est d'accord et il lui dit « il ne repassera pas ». Et de fait, je ne repasserai plus. Je ne suis plus invité depuis cette affaire pour parler des affaires de Nicolas Sarkozy à l'antenne de BFM. J'ai été invité de très nombreuses fois par des programmateurs, des journalistes ces dernières années. Et quand ça arrivait tout en haut et qu'on découvrait au prompteur que j'étais invité, j'étais décommandé à la dernière minute.
– Et qu'est-ce qu'on vous a dit là-dessus ? Est-ce que vous avez demandé des réponses ? –
Moi, j'en ai parlé avec Marc-Olivier Fogiel. Je lui ai dit, mais en fait, c'est pas un but dans la vie de passer à BFM. Hein. Vraiment pas. Mais on estime au journal, à Mediapart, que ça fait partie du boulot que quand on sort des infos, quand on a la main sur une affaire, d'en faire la pédagogie là où on peut et expliquer comment on travaille et expliquer la qualité de ce qu'on estime être les informations d'intérêt public qu'on publie. Donc ça fait partie d'une certaine manière du travail de service après-vente médiatique d'aller... Voilà. Et donc, bah, quand on est invité à BFM pour aller en discuter, bah, on y va. Et moi, à 5 ou 6 reprises ces 3 dernières années, bah, j'ai organisé mon agenda, on m'a invité, etc. Voilà. Et à la dernière minute, on dit non, c'est pas possible. Bon, c'est des mauvaises manières. Et donc j'ai dit à Marc-Olivier Fogiel, c'est quand même bizarre, à chaque fois sur les affaires Sarko, je suis décommandé à la dernière minute. Et en fait, je suis souvent remplacé d'ailleurs par des avocats de Nicolas Sarkozy. Et Marc-Olivier Fogiel m'avait d'ailleurs laissé un message sur mon téléphone. Et puis après, on s'est appelé en disant « mais pas du tout ». Son expression « il n'y a pas de mauvaise humeur vis-à-vis de Mediapart ». Enfin voilà, en fait, on était renvoyé dans les corps d'une sorte de petit complotisme de gens mal lunés parce que leur ego était flétri de ne pas avoir été invité à BFM. Ben là, avec les textos, on a la preuve que Véronique Wachet dit « Arfi, je vois trop sa tête sur BFM » et Fogiel qui lui dit « Il ne repassera plus ». Et cette affaire, elle tient autant par ce qu'on révèle que par ce qui est absent. C'est-à-dire qu'en fait, on pousse les feux d'une fausse information, d'une manipulation médiatique qui aurait pu être évitée si on avait simplement tenté de vérifier. Encore une fois, en deux coups de fil, ces 30 secondes, mais qui diffuse 30 secondes qui n'est pas filmé par soi-même, qui n'est pas vérifié, sur lequel la rédaction n'a pas travaillé ? Ça n'existe pas dans une chaîne d'infos normalement constituée.
J'allais vous demander, est-ce qu'à l'époque, à la fois de la fausse rétractation et de l'interview deux jours plus tard de Nicolas Sarkozy, est-ce que Mediapart est appelé pour venir décrypter en plateau ?
Ah non.
Est-ce qu'il y a des contacts ?
Ben non. Non, on ne fait pas partie du film. On ne fait pas partie du film parce que ça ne tient pas la route. Voilà. Celui qui sera invité quelques jours plus tard, mais c'était pour autre chose, c'est Edou Plenel, et peut-être
ouais, on va y venir tout à l'heure.
On y reviendra, où là aussi, il doit être utilisé, Edou Plenel, pour être sur le plateau de BFM, être le souffre-douleur des volontés de l'équipe Sarkozy.
Et alors, on l'a peut-être pas assez précisé, quand vous parliez de ce fameux jour où Marc-Olivier Fogiel a décidé que vous ne seriez plus à l'antenne de BFM TV, c'est avant tout ça.
Bien sûr.
Avant l'opération. On a déjà décidé que Mediapart...
C'est quand il est mis en examen. Il se trouve que c'est nous qui le révélons. C'est pourquoi je pense que je suis invité, Wachet. Et donc, quand on dit Véronique Wachet, c'est Nicolas Sarkozy. Mmh. Ça ne lui va pas. Ça ne lui va pas qu'on préempte le récit sur cette histoire, ou en tout cas qu'on dise ce qu'on a à dire factuellement. Il ne s'agit pas de dire il va être condamné, et ça. Qu'est-ce qui s'est passé factuellement dans ce dossier sur lequel Mediapart, on travaille depuis 2011, bon, et qu'on a révélé d'ailleurs deux ans avant que la justice s'en saisisse. Et bien là, c'est une occultation, c'est un effacement de ce qui pose problème pour pousser les feux de ce qui n'est pas, mais qui arrange la défense, et comme le dit Routel-Krieff, je l'espère du fond du cœur.
Alors, sur cette interview, justement, on va lire un bout de la défense de Routel-Krieff, qui, elle, dit, finalement, cette interview, elle était musclée, elle n'était pas du tout complaisante, et elle prend comme exemple un extrait qui, à l'époque, avait fait beaucoup de bruit, c'est celui où Nicolas Sarkozy s'emporte.
« En aucun cas, on ne peut opposer les conversations d'un avocat avec son client, comme d'ailleurs d'un médecin avec son patient. Mais où est-on ? Mais... Si, dans l'univers de M. Poutine, on se comportait comme ça, mais nous sommes le pays des droits de l'homme, quand même. Attendez. Et donc, rien que ça, c'est scandaleux.
Oui, mais attendez, mieux que moi, ça. Attendez. Moi, j'ai une question à vous poser, franchement.
Mais je réponds à vos questions.
Mais je sais, c'est ce que je fais. Mais franchement, quand on découvre un ancien président de la République qui a un téléphone caché avec un faux nom, alors les plus gentils vont dire « c'est une affaire de cour de récréation », puis les plus méchants vont dire « c'est une affaire de voyous, c'est un des méthodes de voyous ». C'est très étrange quand même.
Madame, faites très attention au vocabulaire que vous employez. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui plaisante, donc vous ne parlez pas de moi comme un voyou. Pardon de le dire, parce que moi je pourrais dire aussi qu'inviter M. Takedine chez BFM comme vous l'avez fait, c'est une affaire de voyous. Donc mesurez votre vocabulaire. Et les choses iront beaucoup mieux.
Alors, on va revenir sur ce que dit Nicolas Sarkozy, parce que c'est assez exceptionnel, le retournement de situation. Mais sur ce que dit Routel-Krieff, et c'est vrai que cette interview avait laissé à l'époque une impression de rugosité entre les deux.
Moi, je ne suis pas d'accord. Pour moi, c'est un spectacle. En fait, on lui offre l'occasion de s'indigner. Et d'ailleurs, on voit bien dans le questionnement. Certains diraient que, d'autres, voilà. Et puis, il n'y a pas de droit de suite. C'est-à-dire que Sarkozy raconte n'importe quoi. Donc, pour moi, là, on est vraiment dans du spectacle où on pense que parce qu'on a posé une fois une question un peu raide, ça y est, on est lavé de tout le reste. Ce serait vrai si les textos, par exemple, si la coulisse de tout ça confortait ce récit-là. Mais en fait, c'est l'inverse, puisqu'elle en a parfaitement conscience, Routel-Krieff. Quand elle écrit à Véronique Wachet, elle lui dit « ça va, vous avez des bons retours sur l'interview, à part sur moi ». Smiley, clin d'œil. Et Véronique Wachet lui dit « super retour ». Routel-Krieff lui répond « top, génial ». Tu sais, c'est très important pour la défense de Nicolas Sarkozy. Je l'espère du fond du cœur. Donc, je ne crois pas à ce que je vois. Et je le crois d'autant moins que je suis désolé. Et je suis vraiment désolé si ça peut paraître un peu hautain, arrogant, mais je le pense profondément. Je ne vois pas de vérification journalistique là-dedans. Je veux dire, et en plus là, on ne parle pas de l'affaire libyenne. Hein.
Non, on parle de l'autre affaire.
Oui, on parle de l'affaire Bismuth, pour laquelle Exactement. Il sera finalement condamné en première instance. La mal nommée affaire des écoutes. Dans laquelle il sera condamné deux fois et pour laquelle il s'est pourvu en cassation, donc il reste présumé innocent et on verra s'il sera condamné définitivement. Et Nicolas Sarkozy, qui est quand même l'ancien président de la République, garant des institutions et de l'indépendance de la justice, vient quand même comparer ce qui a été fait par la justice à la dictature de Vladimir Poutine. Sachant qu'il avait déjà, en 2014, dans les colonnes du Figaro, comparé les pratiques de la police anticorruption dans cette même affaire à la Stasi est-allemande. Alors que c'est l'inverse. Chez Poutine ou la Stasi est-allemande, il y a des écoutes administratives dirigées par le politique, sans aucun contrôle, qui sont illégales. C'est exactement ce qu'ont vécu tous les écoutés de la cellule d'écoute de François Mitterrand, notamment Edouard Plenel, le fondateur de Mediapart, et qui a fait condamner l'État pour ça. Là, on parle d'écoute judiciaire, encadrée par la loi, contrôlée, est validé par les plus hautes instances juridiques du pays. Donc, on est dans des inversions juridiques factuelles totales avec aucune contradiction. Aucune contradiction. Donc, pour moi, là, il y a une question, on lui met un peu une pique comme ça dans les côtes, il dit, il fait son numéro de « calmez-vous, c'est qui le patron ?» Mais franchement, sincèrement, pour moi, c'est de la société du spectacle.
Et il y a une phrase assez incroyable dans ce que dit Nicolas Sarkozy, c'est qu'il dit « Est-ce que finalement diffuser cette interview de Ziad Takieddine, c'est pas aussi des méthodes de voyous de la part de BFM TV ?» On atteint le stade ultime de la manipulation, j'allais dire. Et c'est là qu'on se demande quand même comment la chaîne a pu accepter ça. C'est-à-dire que non seulement ils acceptent, mais ils acceptent ensuite de se faire cracher dessus, puisqu'on les traite de voyous.
Mais parce que ça fait partie, pour moi, ça fait partie d'une comédie de l'information. Sincèrement. Et les textos nous permettent de le dire. D'ailleurs, le patron d'Altice, Arthur Dreyfus, qui est le propriétaire de BFM au moment où tout ça se passe, quand il écrit à Véronique Ouaché, lui aussi pour savoir si ça s'est bien passé, Sarkozy, il l'appelle le boss. Bon, je veux bien, encore une fois, chaque texto pris les uns à côté des autres, on peut trouver des explications, des excuses, des aménagements, des amendements, etc. Mais enfin, tout mis bout à bout, on a littéralement l'état-major d'une chaîne contre sa rédaction qui s'est mis au service d'un mis en cause qui a parfaitement le droit de s'exprimer. Moi, j'ai échangé avec Ruth El-Khriaf. Elle me dit « Mais nous, on n'est pas des procureurs. On doit respecter la présomption d'innocence. Un mis en cause a bien sûr le droit de s'exprimer. » Mais personne n'a dit le contraire. Personne n'a dit qu'il ne faut pas inviter Nicolas Sarkozy, qu'il n'a pas le droit de se défendre. C'est pas ça la question. Et d'ailleurs, c'est intéressant de constater que Ruth El-Khriaf considère que parler de faits qui embêtent Nicolas Sarkozy, quand on est journaliste, c'est être un procureur. D'abord, je ne vois pas en quoi c'est un problème d'être un procureur. Un truc dans ce pays où procureur, c'est devenu une insulte. Bon, c'est juste que ce n'est pas le même métier. Journaliste, procureur, policier, juge, on n'a pas du tout la même fonction sociale. Donc c'est marrant déjà d'intérioriser à ce point ce langage-là, qui est précisément celui de l'équipe Sarkozy, notamment vis-à-vis de Mediapart. Nous sommes des journalistes procureurs, des Torquemada, des Robespierre, à tout prix. Voilà. Parce que c'est la deuxième lame de l'opération, c'est fracasser la justice au travers de la figure du juge Tournaire, et c'est fracasser Mediapart. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est celle qui a tout organisé, qui s'appelle Mimi Marchand. Et elle le dit à qui? Elle le dit à Marc-Olivier Fogiel. Il y a une écoute entre Mimi Marchand et Marc-Olivier Fogiel qui date de 2021, juste avant qu'elle soit interpellée dans ce dossier, où elle dit, encore en parlant de moi, je les obsède manifestement, Arfi va avoir mal à la tête, parce qu'il voulait faire encore une nouvelle manipulation qui finalement n'a pas eu lieu parce qu'ils ont été interpellés, et comme ça je pourrais terminer ma mission. Et quand les policiers demandent à Mimi Marchand, mais c'est quoi votre mission dont vous parlez à Fogiel, elle dit, deux points ouvrez les guillemets, tuer Mediapart. Mimi Marchand dit, ma mission c'est tuer Mediapart. Voilà. Et c'est marrant parce que ça coïncide parfaitement avec le fait qu'on soit effacé de l'antenne de BFM TV à la demande de l'équipe Sarkozy, parce qu'on fait partie de ceux, on n'est pas les seuls, hein, il ne s'agit pas vraiment de nous jeter des fleurs, mais parce qu'on fait partie de ceux qui avons la maîtrise du dossier et qui offrons factuellement, pas en blabla, pas en opinion, factuellement un contre-récit à ce qui est fait. Et bien malgré tout ça, Marc-Olivier Fogiel, il trouve qu'ils ont formidablement bien travaillé à BFM.
Et alors, j'allais dire, le deuxième volet de ce travail, ce sont les plateaux de débat qui ont suivi la rétractation, la fausse rétractation de Ziad Takieddine. On va voir un extrait de Bruno Jeudy, qui est en plateau, parce que les coulisses de ce que vous allez voir sont assez incroyables.
Le problème, c'est que les accusations précédentes de Ziad Takieddine constituent un des axes principaux des accusations portées contre Nicolas Sarkozy et qui lui valent aujourd'hui d'être mis en examen 4 fois, dont une dernière, la 4e fois. Alors avec ce revirement, on se dit que la justice quand même a donné beaucoup de crédit à quelqu'un qui apparaît comme
Le revirement,
comme
c'est pas
menteur.
Dans le bureau du juge. Le revirement, c'est à BFM TV.
Il n'est pas dans le bureau du juge, vous avez raison. Mais ses premières déclarations avaient déjà été des déclarations devant les médias qu'il avait ensuite, les précédentes, qu'il avait confirmées dans le bureau du juge Tourneur.
Attention, il y a quand même d'autres éléments dans ce dossier. Il y a d'autres témoignages. Il n'y avait pas seulement le témoignage de Ziad Takieddine. Il y a d'anciens dignitaires libyens, il y a des notes des services secrets, il y a un carnet qui a été retrouvé dans le Danube d'un ancien dignitaire qui avait aussi évoqué effectivement ses versements à Sarkozy. Donc il y a d'autres témoignages, évidemment, qui sont eux-mêmes décrédibilisés par Nicolas Sarkozy. C'était l'une des pièces maîtresses, mais ça n'était pas évidemment la seule.
Bruno Jeudy.
Mais c'est quand même une des pièces centrales de ce dossier. Donc effectivement, Nicolas Sarkozy ce soir peut évidemment se réjouir et vouloir faire bon droit.
Il peut se réjouir, mais il faudra que les juges.
Bien sûr. Non, mais c'est quand même un des éléments central qui a conduit à.
C'est même la
juge.
C'est
le juge Tourneur qui est cité.
Oui, bien sûr. C'est pas la seule. Le juge Tourneur a été.
C'est lui qui m'a manipulé.
S'agissant des autres personnages, cette affaire est assez complexe, personnages qui sont par ailleurs aussi assez peu recommandables. Donc je trouve que pour Sarkozy ce soir, c'est quand même un élément important dans ce dossier.
Alors, là, ce qui suit est proprement incroyable. C'est-à-dire que pendant que ça se dit en plateau, Bruno Jeudy, en fait, échange des textos avec Véronique Ouaché, la fameuse, donc cette proche de Nicolas Sarkozy. En face de lui, il y avait Sarah Lou Cohen, qui était, je crois qu'elle n'est plus à BFM maintenant, mais à l'époque, elle était journaliste police-justice chez BFM TV, donc spécialiste de toutes ces questions-là. C'est elle qui rappelle que, quand même, il y a beaucoup d'autres éléments dans le dossier et que Ziad Takieddine est certes un élément important, mais pas central. Et donc, vous écrivez à intervalles réguliers, la journaliste régulièrement confrontée à la matière judiciaire, donc Sarah Lou Cohen, pondère le narratif des sarkozistes en rappelant que l'affaire ne repose pas essentiellement sur le témoignage de Ziad Takieddine. En plateau, Bruno Jeudy rectifie aussi les commentaires de la présentatrice. « Tu l'as bien mouché cette nulos », commente Ouaché. « J'attendais gentiment la balle, le long de la ligne, se félicite-t-il ?» Et juste avant, il envoyait aussi à Ouaché que sa consoeur était, je cite, « chiante, on lui donne du caviar et elle mégote ».
Voilà. C'est, franchement, vous enlevez le banc-titre pour savoir qui est Bruno Jeudy, en fait, vous avez l'impression d'être face à un avocat de Nicolas Sarkozy. Avec beaucoup d'assurance, Bruno Jeudy, qui n'a jamais écrit une ligne sur l'affaire...
Il le dit d'ailleurs.
Oui,
il le reconnaît de manière assez ironique dans
sa
votre...
Sa défense, aujourd'hui, c'est de dire « mais moi, je ne connais rien à cette histoire ». Bah, quand on regarde l'image, on a l'impression qu'il connaît tout. Il nous dit « c'est la pièce centrale du dossier », etc. Et encore une fois, on voit les éléments de langage où la personne qu'il faut atteindre, c'est le juge Tourneur. C'est une opération contre un juge. C'est une opération contre un juge, ce qui s'est passé. Accessoirement contre un journal, mais contre un juge. Bon. Et en fait, ce qu'il raconte, c'est n'importe quoi. Et la journaliste qui est compétente, qui connaît les arcanes de la justice, qui connaît un peu le dossier, qui tente un peu de pondérer ça, elle se fait tracher en plein direct par Bruno Jeudy, qui, sous la table, textote avec la communicante de Nicolas Sarkozy, tout le monde se félicitant de tout ça, et lui disant « t'as vu, comme je l'ai bien mouché, de toute façon j'attendais tranquillement en fond de cour, manifestement il aime bien le tennis et tant mieux », et après avoir dit « on lui donne du caviar et elle mégote ». Mais c'est extraordinaire cette phrase, « on lui donne ». Mais c'est quoi ça? En fait on est des passe-plats. On est dans une brigade de cuisine et ensuite on est au service et Sarkozy vous donne un plat et vous le servez à vos téléspectateurs. Bah, donc c'est extravagant et c'est à l'image de ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, c'est que cette opération s'est faite par un petit clan politique et médiatique, Sarkozy, Marc-Olivier Fogiel, l'état-major de BFM, contre le journalisme et contre les journalistes de sa propre chaîne. C'est la raison pour laquelle ils sont furieux aujourd'hui, les journalistes de BFM, et qui demandent des comptes, que ce soit la Société des journalistes ou que ce soit les syndicats, qui tous demandent des comptes à Marc-Olivier Fogiel parce qu'ils savent ce qu'il s'est passé et à quel point ils ont été évincés de leur propre chaîne pour faire pourtant ce qu'est leur métier du journalisme. Et ceux qui ont essayé, on les a renvoyés dans leurs 15 mètres.
– Alors, il y a une partie qui manque, j'allais dire, mais c'est normal puisque ce n'est pas dans les dossiers judiciaires, c'est ce qui s'est passé en interne à BFM. C'est-à-dire, qu'est-ce que Bruno Jeudy est envoyé en porte-flingue sur le plateau en lui disant « bon, vas-y, il faut contrebalancer » ou est-ce qu'il le fait de bonne grâce parce qu'il est convaincu de ce qu'il raconte ?–
Au vu de sa réponse, c'est ça qui est formidable, c'est qu'au vu de la réponse qu'il fait à Mediapart, c'est qu'il est convaincu de rien parce qu'il dit « moi, je suis au courant de rien ». En fait, je ne connais pas cette histoire, je m'écris dessus. Donc tout ça est fait avec une légèreté et aujourd'hui qui est assumée. Voilà, c'est formidable. Parce que moi, ce qui me sidère le plus, vraiment, dans tout ça, c'est à quel point on ne discute jamais à BFM des gens qui les regardent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que cette histoire est un faux scoop. On sait que, faute de vérification, par aveuglement, par emballement, par soumission à une opération de communication politique dans le dos de sa propre rédaction, que Marc-Olivier Fogiel a entraîné sa chaîne comme le véhicule d'une immense manipulation médiatique. C'est acquis aujourd'hui. Non seulement la rétractation est le produit d'une subornation de témoins présumée d'après la justice et d'une escroquerie au jugement présumée d'après la justice. Je ne dis pas que Marc-Olivier Fogiel est en cause judiciairement, d'ailleurs il n'est pas poursuivi, mais journalistiquement, c'est une catastrophe. Il n'y a pas eu un mot d'explication aux téléspectatrices et aux téléspectateurs du BFM. Il n'y a pas eu un mot d'excuse. Rien. Vous imaginez qu'il se passe ça dans un pays anglo-saxon, en Angleterre. Ça peut arriver de faire des conneries. Tout le monde fait des conneries. Tous les journaux font des conneries, évidemment. Mais vous imaginez la BBC qui se retrouve là-dedans et qui n'explique pas. Ben voilà, on en a fait des caisses pendant un week-end, plus une interview d'un mise en cause qui raconte n'importe quoi. Voilà ce qui s'est passé, voilà ce qu'on sait aujourd'hui. On vous doit des excuses et au moins des explications. Rien. Mais c'est même pire que rien, voire moins que rien. C'est que la défense aujourd'hui, c'est « on a été excellent ». Journalistiquement, c'est la phrase de Fogiel à l'AFP hier, « on est journalistiquement irréprochable ». Moi, là, je fais partie des gens qui arrivent de regarder BFM. Je me dis mais c'est quoi la crédibilité de cette chaîne avec un patron qui quand il est pris la main dans le pot de confiture et le faux et l'absence de vérification, il te dit « c'était impeccable ». L'éditorialiste qui raconte n'importe quoi, il dit « mais en fait, moi, j'y connaissais rien ». Non mais quand on est journaliste et citoyen, on a l'impression de vivre dans un monde de réalité parallèle, de vérité alternative. C'est pour ça que je dis que c'est très trumpien. Il y a eu un moment trumpien dont une grande chaîne comme BFM, composée de formidables journalistes, a été le véhicule consentant, je suis désolé, consentant. Et c'est une sorte de fiasco absolu du début à la fin et qui est aggravé, de mon point de vue, par l'attitude et la morgue, aujourd'hui, de la direction de la chaîne.
Oui, j'allais dire fiasco organisé, parce qu'on va regarder un dernier extrait. Cette fois-ci, c'est Edoui Plenel qui est invité sur un autre sujet. Et j'allais dire, c'est la dernière lame de l'opération. Et cette fois-ci, on s'en prend directement à Mediapart.
Demain, il y aura donc la plaidoirie de Richard Malka dans le procès de Charlie Hebdo. Évidemment, c'est le procès des attentats de 2015. C'est un procès, je le disais, historique, je pèse le mot. De par son ampleur, de par sa résonance, de par la façon dont ces faits ont touché l'ensemble des Français. C'est un procès au cours duquel Mediapart, en un sens, était placé sur le banc des accusés par une partie des rescapés de Charlie Hebdo. Fabrice Nicolino, qui a dit à la barre ce réseau dense de gens qui ont confié Charlie, ont refusé de mener le combat de la liberté, ont colporté qu'on était devenu un journal raciste, ont participé à la préparation psychologique de cette affaire. Il vous nomme précisément, Rhys le fait aussi, tout comme Coco. Plusieurs hommes, femmes politiques vous accusent, ce mot qu'on a beaucoup entendu, d'islamo-gauchisme. Ça n'est pas rien, dans un procès pareil, d'être mis en cause directement par des personnes. Comment est-ce que vous réagissez? On ne vous a pas encore entendu, Edoui Plenel, sur ce sujet.
Question très longue. Et encore une fois, on est 2 jours après l'interview de Nicolas Sarkozy, 4 jours après la diffusion de la fausse rétractation de Diète Takieddine. Et encore une fois, je disais, Marc-Olivier Fogiel et Véronique Wachet échangent par texto. Elle se plaignait juste avant ce passage que c'était un peu trop mou pour Edoui Plenel en plateau. Il lui dit « Voilà, parfait, et c'était organisé comme tu le sais, et maintenant il va être interrogé. Islamo-gauchisme, pas un chemin de rose. » Elle est rassurée. Non, effectivement, il ravale sa moustache. Et là, deuxième couche, annonce Fogiel, « Ah zut, je suis parti », elle a dû quitter sa télé, visiblement. L'islamo-gauchisme est le fait qu'il fait le lit des attentats.
Mais vous vous rendez compte? C'est inouï. Petite précision factuelle, c'est que Fogiel prévient Véronique Wachet, la collaboratrice de Nicolas Sarkozy, que Edoui Plenel est invité en plateau, pour s'en excuser. Et tu sais, c'était prévu de longue date. Pardon hein, si on a invité le diable pour vous, mais t'inquiète pas, on va faire le maximum. Mais comme ils n'arrivent pas à le bousculer sur l'affaire libyenne, et d'ailleurs Véronique Wachet s'en plaint parce qu'elle le trouve bon, et Fogiel aussi, Edoui répond bien sur l'affaire libyenne, eh bien on va déporter l'attaque sur un autre terrain idéologique qui est une calomnie insupportable. C'est-à-dire... islamo-gauchisme slash il a fait le lit des attentats. Non mais, donc là, on est en plein délire absolu, factuel, qui rejoint exactement des éléments de langage, d'ailleurs, de la Sarkozy depuis des années contre Mediapart. Comme on n'arrive pas à nous prendre sur les enquêtes factuelles qu'on publie, on essaie de nous prendre et de nous diaboliser sur autre chose. Alors, ça peut malheureusement marcher pour ceux qui ne nous lisent pas. Mais pour ceux qui nous lisent, ils voient bien que ça ne tient pas à la route. On a l'un des meilleurs... Enfin, c'est même dingue d'avoir à s'en justifier. On a, avec Mathieu Suc à Mediapart, l'un des meilleurs connaisseurs du terrorisme islamiste et djihadiste qui a révélé un nombre d'informations pas possible sur ces réseaux-là. Bon, et donc, c'est la démonstration grâce au texto que c'est la poursuite de l'opération et de ce que je vous disais tout à l'heure sur le mobile dont parle Mimi Marchand devant les enquêteurs, tuer Mediapart. C'est-à-dire que ça y est, on a réussi à faire flageoler la crédibilité de la justice, pense-t-il, en ayant attaqué le juge Tourneur. On a affaibli Mediapart qui ont fait des caisses sur cette histoire. On les a effacés de nos antennes. Mais quand ils arrivent, parce que c'était prévu et c'est compliqué de le décommander Edoui Plenel au dernier moment, eh bien, on va le décrédibiliser sur un autre terrain qui est celui de l'islamo-gauchisme dont certains spécialistes d'ailleurs du CNRS, c'est un terme qui est même inventé par le régime de Poutine, hein, quand même. Donc c'est quand même extraordinaire de voir ce que BFM peut parfois être comme caisse de résonance du pire.
Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Ou est-ce qu'à ce moment-là, vous vous dites, bon, plateau chaîne d'infos classique?
Non, en fait, Edoui, je me rappelle, parce qu'on en avait parlé après, un peu fatigué de toujours ces mêmes choses... Il disait que c'était vraiment bizarre, cette interview. C'est comme s'il y avait une oreillette. Et d'ailleurs, il a depuis nos révélations, il a parlé, Edoui, qui est maintenant donc l'ancien président de Mediapart, il a parlé d'un journalisme d'oreillette. Il y avait avant un journalisme de gouvernement, mais il y a un journalisme d'oreillette, découvre-t-on avec l'enquête de Mediapart sur BFM. Et c'est une bonne expression, je trouve. Et en fait, bah oui, il a raison, puisqu'il avait eu le nez creux, puisqu'il y avait vraiment une oreillette. C'était une discussion Fogiel-Wachet en direct. Pendant que ça se passe. Donc en fait, Fogiel devient l'attaché de presse, lui, de Véronique Wachet pour lui montrer bien qu'il sert les plats comme les désirs de Nicolas Sarkozy.
Et il embarque avec lui ses journalistes, puisqu'il dit, Jean-Baptiste Boursier, qui est le journaliste qu'on voit à l'écran et qui interrogeait du PNL, il la rassure en lui disant « t'inquiète, il a des billes ».
Exactement, c'est prévu. Voilà. Il dit « c'est organisé d'ailleurs ». C'est un scénario. On est face à un scénario. On a un scénario qui est écrit, qui s'arrange, et le chemin se fait en marchant, mais c'est un scénario. C'est un scénario faux, c'est un scénario de fiction, mais sauf que ça se passe non pas dans une case fiction d'une chaîne, mais dans une chaîne d'information. Donc là, ça peut pas tenir, ça. Et encore une fois, le fait qu'ils aient publié des fausses informations et participé à une manipulation, et que la seule réponse ce soit « on a super bien travaillé », bah, je comprends que ça rende complètement dingue les confrères et les consoeurs de la chaîne.
Alors, on l'a dit tout à l'heure, hein, les syndicats de BFM TV ont réagi assez vertement à vos révélations. CGT, notamment la CGT et le SNJ, qui écrivent, entre autres, « La compromission de Marc-Olivier Fogiel entache la crédibilité de toute la rédaction. Nous exigeons des explications très claires de Marc-Olivier Fogiel sur sa connivence affichée avec l'ancien chef de l'État et l'appelons à prendre ses responsabilités. » On mettra dans cette dernière phrase tout le sens qu'on veut.
Elle peut peser très lourd.
On sait qu'une motion de défiance a été évoquée, mais pour l'instant, elle n'a pas été mise au vote ni concrétisée. Et puis la SDJ de BFM aussi. Beaucoup de journalistes de BFM TV se sont dit déçus puisqu'ils avaient posé des questions à la direction malgré les réponses apportées, car les révélations ternissent l'image de la rédaction. Et ils demandent aujourd'hui une nouvelle charte éthique. Moi, j'ai une question pour vous. Après autant d'attaques personnelles, puisque finalement, ça devient très personnel, ces histoires-là.
Oui,
on n'est plus seulement dans une affaire politique.
Hein.
Évidemment, j'allais dire, vous y êtes pour rien, pour le coup. Est-ce que vous vous dites, bon, BFM, c'est fini, on n'y va plus?
Ah bah c'est une bonne question, on ne se l'est pas posé comme ça. Ce qui est certain, c'est que la question se posera si on est invité. Mais là, c'est compliqué. Enfin, moi, à titre personnel, c'est vrai que c'est compliqué. C'est dur d'avoir confiance. Après avoir eu un Marc-Olivier Fogiel qui vous dit, non pas les yeux dans les yeux, mais de la bouche à la bouche, parce qu'on était au téléphone, mais pas du tout, si c'est décommandé. Et même en disant, c'est vrai, je comprends que ça peut être désagréable quand on refait tout son agenda d'une journée, d'être décommandé au dernier moment. On va faire attention à ce que ça se passe plus tout, alors qu'on sait que, en fait, c'est à la demande de l'équipe Sarkozy et que on ne repasse pas, selon la volonté de l'ancien président qu'accepte Marc-Olivier Fogiel. Bon, bah, c'est quand même compliqué. Et puis, Marc-Olivier Fogiel, il va bien falloir qu'il s'explique sur sa relation avec Mimi Marchand dans cette histoire, celle qui est l'organisatrice de toute cette affaire de fausse rétractation. On voit un Marc-Olivier Fogiel qui est soumis à Nicolas Sarkozy, mais qui est dépendant de Mimi Marchand. Pour quelle raison? Pourquoi? Cette affaire, dans l'affaire de l'affaire libyenne, je l'ai dit, il y a quand même Nicolas Sarkozy, Carla Bruni, Mimi Marchand et 8 autres personnes qui sont mises en examen, ils sont où les grands sujets de BFM là-dessus? Ils sont où le détail de qui est Mimi Marchand, de le plateau pour expliquer, etc. Pourquoi c'est effacé ça? Alors que c'est un personnage central d'une immense affaire. Et là aussi, c'est une question à laquelle ne répond pas Marc-Olivier Fogiel, qui est dans un moment, je crois, compliqué vis-à-vis de l'histoire de BFM, puisque BFM vient d'être racheté.
Par
le groupe Saad, transporteur maritime, CMA, CGM, ça appartenait avant à un autre oligarque qui était Patrick Drahi, le patron de SFR et de la société Altice, et que la question est de savoir s'il est sur un siège éjectable ou pas, s'il va garder son poste ou pas. Et d'ailleurs, une demi-heure avant nos révélations, ça on ne le savait pas du tout, il y avait une réunion de Marc-Olivier Fogiel devant des équipes de BFM où il avait annoncé qu'à date, son expression, à date, il resterait à BFM. Et une demi-heure plus tard, il y a des révélations sur les coulisses de cette immense manipulation et fiasco. Et donc, bon, je ne sais pas ce qui va advenir concernant son poste. Mais c'est vrai que le communiqué commun des deux syndicats, les mots sont lourds en lui demandant de prendre ses responsabilités. Certains y ont vu, je ne sais pas si c'est le cas, mais certains y ont vu un appel à la démission.
Et alors, je voulais vous poser la question tout à l'heure, mais on s'est laissé embarquer dans le récit. Et... ma grande faute, j'ai oublié. Mais quand on a entre les mains... je ne vous demanderai évidemment pas qui sont vos sources, mais quand on a entre les mains des discussions entre des journalistes, est-ce qu'ils pourraient s'apparenter à des sources? Est-ce qu'on se pose la question de est-ce que c'est publiable, pas publiable?
Ah bah, bien sûr, on se pose. C'est évidemment une question excellente et fondamentale qu'on s'est posée avant de travailler et à laquelle on a répondu de manière très, très simple. D'abord, ce sont des éléments qui ont été saisis dans le téléphone de Véronique Ouachet par des juges d'instruction qui eux-mêmes disent dans le procès-verbal de retranscription qu'ils en font qu'ils ont fait très attention et pris garde à ne pas porter atteinte au secret des sources et de verser ce qui est utile, c'est leur expression, à la manifestation de la vérité dans le cadre de l'enquête. Donc, ce sont en quelque sorte des pièces à conviction qui sont utiles à une enquête judiciaire pour comprendre la machination qui a été mise en branle avec l'affaire de la fausse rétractation. Et ensuite, on regarde les textos les uns après les autres. Et je mets au défi quiconque de dire que nous révélons la source de qui que ce soit là-dedans. On n'est pas du tout là dans quelqu'un qui donne une information à quelqu'un d'autre. On est dans un pack, on est dans une équipe qui fait main dans la main une opération au mépris de la vérité factuelle et du travail de la rédaction de BFM pour servir les intérêts d'un mis en cause, et non des moindres, un ancien président, Nicolas Sarkozy. Donc on est totalement en dehors du journalisme, on est même dans comment une chaîne est devenue une agence de communication. Voilà. Et donc, il n'y a absolument pas d'atteinte qui est portée au secret des sources. Mediapart a déjà fait des révélations sur notamment l'ancien directeur de Paris Match, qui est l'un des avocats médiatiques de Nicolas Sarkozy dans cette histoire, Hervé Gattegno, eu égard à sa proximité avec l'autre intermédiaire de l'affaire, qui est Alexandre Djouri. Nous avons fait des révélations sur Jean-Pierre Elkabbach et Brice Hortefeux, sur comment l'un et l'autre préparaient une interview, c'est-à-dire que les questions étaient fournies, proposées, négociées, discutées de manière complètement incroyable entre l'ancien ministre et le journaliste star d'Europe 1, Monsieur Elkabbach. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de vache sacrée. Mais bien sûr que si on voit quelque chose qui porte atteinte au secret des sources, on n'en parle pas, ça n'existe pas. Donc c'est totalement protégé, ça. Et d'ailleurs, les juges le savent, puisque c'est encadré par la loi. Ils ne peuvent pas porter atteinte au secret des sources, les juges. Mais là, on ne parle pas de ça. Là, on parle d'autre chose. On parle d'une opération de communication qui avait pour nom sauver Sarko.
Est-ce que depuis l'enquête, vous avez eu d'autres contacts avec Marc-Olivier Fogel ?
Aucun. Marc-Olivier Fugel n'a pas réagi. Il a réagi auprès de ses équipes. Il a fort à faire avec ses équipes. Bien sûr, toutes les personnes sur lesquelles nous écrivons, pour celles et ceux qui nous regardent, c'est quand même très important. On respecte ce qu'on appelle dans notre jargon le contradictoire. C'est-à-dire que quand on écrit sur des gens, quand on écrit sur Fogel, sur Ruth Elkrief, sur Bruno Jeudy, sur Véronique Waché, on les contacte avant de publier pour avoir leurs commentaires, leurs vues et donner leurs lignes vis-à-vis des informations qu'on publie. C'est bien la moindre chose. Donc ça, on l'a fait. Mais depuis, on n'a eu absolument aucun retour d'aucune de ces quatre personnes.
Et j'allais dire, peut-être le dernier effet retard de toute cette affaire, c'est qu'on en entendra probablement pas parler sur la deuxième chaîne, sur les autres chaînes d'infos. Alors LCI, parce que Ruth Elkrief y travaille, donc je ne vais pas trop avancer, mais a priori, il y a peu de chance. Et CNews, a priori, n'est pas trop fan de Mediapart. Donc il y a
LCI,
peu de chance
propriété du groupe Bouygues, qui est d'une énorme proximité avec Nicolas Sarkozy, au point que l'un de ses propriétaires est le parrain du fils de Nicolas Sarkozy. Et CNews, propriété du groupe Bolloré, dont Nicolas Sarkozy est un intime absolu. Cette opération ayant été menée de conserve avec, je l'ai dit en début d'émission, avec Paris Match, propriété du groupe Lagardère, dont Nicolas Sarkozy est aujourd'hui un administrateur. Donc quand même, là, on est dans...
on a atteint un stade de collusion entre clan Sarkozy et les grands... Alors, pas tous les grands médias, évidemment, mais certains grands médias, qui est, j'allais dire, presque le stade ultime.
Exactement. C'est-à-dire que, malheureusement, cette histoire ne vit pas là où elle devrait vivre, c'est-à-dire partout, de mon point de vue. Alors peut-être qu'on va dire, le mec, il est trop porté sur son histoire. Évidemment, il y a des choses très importantes politiquement qui jouent dans le pays, tout ça. Mais moi, si je prends du recul, je vois à quel point cette affaire libyenne n'a pas du tout, de mon point de vue, au regard de la gravité de ce qui a été mis au jour par les journalistes et par les juges, et du fait qu'il va y avoir quand même... C'est un procès historique qui va s'ouvrir en janvier à Paris. Il va y avoir pendant 4 mois d'audience le procès du soupçon d'une démocratie, la France, qui a été corrompue par une dictature, celle de Muammar Kadhafi, avec sur le banc des prévenus un ancien président de la République et 2 anciens ministres de l'Intérieur. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire politique et pénale de France. Bon. Est-ce qu'on a l'impression que c'est traité comme certaines, par exemple, des affaires Trump sont traitées par les télés et les journaux américains ? Si je compare, j'ai l'impression, moi, que pas du tout. Il y a une forme de je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, j'ai beaucoup de mal à l'expliquer, si ce n'est pour tous ceux qui ont parti lié avec Nicolas Sarkozy, et ils sont très nombreux. On vient de le dire, entre Bolloré, Bouygues, Lagardère et d'autres. Et donc, moi, c'est ça qui me chagrine. C'est une forme de silenciation. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut dire que Mediapart a bien travaillé, qu'on a raison, que Nicolas Sarkozy va être condamné. Moi, je ne sais pas s'il va être condamné. C'est les juges qui le diront. Mais il y a des faits. Et il n'y a pas que Zia Takieddine dans ce dossier. Il y a des virements bancaires, il y a des rapports, il y a des notes, il y a foultitude de témoignages concordants. Je fais, moi, ce métier depuis 25 ans. Sincèrement, je n'ai jamais vu dans un dossier d'une telle gravité autant d'éléments matériels dans un dossier. Est-ce que Nicolas Sarkozy laissera ses lieutenants se faire condamner ? Est-ce qu'il sera condamné ? Est-ce que y aura une relaxe pour telle et telle raison dans le dossier ? On verra. Ça, c'est le rôle de la justice. Mais les faits, eux, sont là.
Et j'allais dire, c'est la dernière question, et on finira là-dessus, que pose la SDJ à la direction de BFM TV. Pourra-t-on traiter le procès normalement sur BFM TV en janvier ? Évidemment, on surveillera ça.
On compte sur Arrêt sur Image.
Avec attention.
Pour surveiller ça.
Merci beaucoup, Fabrice Arfi, d'être venu retracer le fil de ces révélations. C'est à lire sur Mediapart, et il y en a une petite partie aussi sur Arrêt sur Image. N'hésitez pas à aller faire un tour. Merci à vous, et on se retrouve très vite sur le plateau d'Arrêt sur Image. Ciao.